Et on parle de foie gras ce matin, Claude.
Un foie gras éthique, moral, Nicolas, obtenu sans gaver les volatiles et qui fait le bonheur de Sud-Ouest, journal papier, site internet. Magnifique reportage dans l'Estrémadure, région pauvre d'Espagne où Eduardo Sousa attire et chérit des oies sauvages captées pendant leur migration. Elle se pose chez lui, attirée par les oies de sa ferme qui les appellent. Elles vont se mêler aux oies domestiques et là se nourrir des bonheurs de la DSA, le paysage méditerranéen où poussent figuiers, chênes et oliviers. Thomas Bonita, mange ma belle, dit Eduardo en lançant du maïs aux oies migrantes pour les acclimater. Elles seront protégées des prédateurs par ses chiens. Elles feront du gras, heureuses par coutume ancestrale, car les oies engraissent leur foie spontanément en y prenant le temps. Mais à la fin du bonheur, quand viendrait le moment de s'envoler à nouveau, par une nuit sans lune, Eduardo viendra et avec des lampes LED aveuglera les oies et dans leur inconscience, elles seront tuées, mais sans avoir souffert, assure-t-il. Une histoire que les véganes n'aimeront pas, mais elle est passionnante parce qu'elle nous dit. Eduardo s'inscrit dans l'histoire, il affirme que sa technique vient des supplétifs hébreux que l'armée romaine avait amené dans sa conquête de l'Espagne pendant l'Antiquité, mais il campe dans notre modernité, célèbre depuis qu'une vedette de la gastronomie new-yorkaise lui a consacré une conférence visionnée sur internet 1,5 million de fois. Le foie gras des oies d'Eduardo est sublime, rare et cher, un mets d'élite et de proximité, et il va échapper au bannissement du foie gras issu de notre gavage qu'a décidé New York. Et à partir d'Eduardo, Sud-Ouest nous fait réfléchir, l'avenir de l'élevage des oies serait dans leur libération. Des animaux qui se sentent libres et sereins, de bonne foi, nous offriraient le leur. Cette histoire d'animaux libres et sacrifiés vient bien ce matin, quand s'ouvre la COP25 à Madrid, et le secrétaire général de l'ONU nous demande de ne plus faire la guerre à la planète. Chacun, à sa manière, les journaux interprètent le défi environnemental. Le Monde me convie au regret et à la consternation devant le temps perdu, car on savait depuis 1979 ce que notre mode de vie faisait à la planète. Cette année-là, un rapport de l'Académie des sciences américaines était remis à la Maison Blanche qui prédisait un réchauffement moyen compris entre 1,5 et 4,5 degrés. Le rapport fut oublié. L'Opinion et les Échos, journaux phares de l'économie libérale, se mobilisent ce matin puisque le capitalisme se serait amendé. Un titre des Échos, numéro spécial entièrement tissé de textes écrits par des experts, des politiques, des célébrités, est révélateur. La COP25 serait un sommet crucial pour éviter la décroissance. Que faut-il sauver, la nature ou la croissance? Le Parisien, lui, se demande quels arbres il faudra planter à Paris pour les âges à venir qui nous donneront de l'ombre sans réclamer trop d'eau. Les feuilles de nos platanes sont tombées dès août dernier. L'été passé.
On parle aussi de chauffeurs de bus ce matin.
Des chauffeurs de bus scolaires qui conduisent des enfants dans l'Ain et dans l'Isère et qui ne parlent pas français. Ils sont roumains, embauchés par une compagnie qui n'a pas trouvé de chauffeur français. La pénurie, nos chauffeurs roumains ont des petits panneaux qui indiquent leur ignorance de notre langue. On peut aussi bien leur parler en anglais. À la rentrée, des enfants ont été déposés au mauvais arrêt et la colère monte dans le budget. Elle est dans le progrès où j'apprends que la maîtrise de notre langue n'est pas une condition pour transporter nos enfants. Voilà de quoi nourrir quelques fatigues face au monde. Sous un faux air de folklore, Libération m'en donne une autre raison. À Paris, des affrontements sanglants, à la machette, au couteau, au katana, opposent des gangs de jeunes tamouls, les Mukala, Vilutus, Venia, Red Boys et Lamboys Cobra. La police peine à les comprendre. Leurs membres sont issus de la communauté tamoule réfugiée en France pendant la guerre civile du Sri Lanka. Le sang qui tombe sur le trottoir parisien reproduit la violence et les codes cinématographiques aussi d'une île lointaine. À la une de Libération et de la Voix du Nord notamment, monte en puissance la grande peur du jeudi noir à venir, ce 5 décembre, jour de grève, auquel le Parisien consacre plus de 7 pages, nourri d'angoisse et de bons tuyaux. Je retiens qu'on peut, avec de bonnes chaussures, marcher au boulot si le travail n'est pas trop loin. Le titre est teinté d'humour, grève, le guide de survie. Survie, oui, c'est de l'humour forcément. J'apprends dans l'Indépendant que d'une Minervois, un procès va peut-être enfin punir ce propriétaire qui laisse divaguer des vaches sur un terrain qui n'appartient pas à lui. Ça énerve aussi. Ça énerve également ce qui se passe, me dit West France, à Mérigadec dans le Morbihan. Depuis 2 ans, tous les 2 mois, des sachets de courses alimentaires sont déposés près de conteneurs à verre à côté du stade de football. Ils contiennent des bouteilles d'eau en plastique remplies d'urine. La gendarmerie s'interroge. Le maire est excédé. Ça aussi, je vous le dis, fait douter de l'existence.
Et un homme riche pour finir.
Damien Hirst, quinquagénaire, artiste anglais, contemporain, vedette que le Figaro a visité en basket t-shirt constellé de taches de peinture dans son atelier de Londres. Damien Hirst, milliardaire, qui se souvient qu'enfant, il subit les coupures d'électricité. Maintenant, ça va bien. Il s'est remis à la peinture. Au fait, il en parle, mais il parle surtout d'argent et c'est drôle. L'argent m'intéresse car c'est un domaine complexe, difficile à manier, peut-être pas aussi compliqué que l'amour, mais pas loin. Quand j'ai commencé ma vie d'artiste, je n'avais aucun argent. Puis j'ai commencé à en gagner, à avoir des problèmes avec mes amis des débuts. Qui paye la tournée au pub? Quel pub et dans quel quartier? Quel pub et dans quel quartier? Très bonne question. En brillant de réponse, l'Est républicain me suggère que finalement Damien Hirst pourrait aller au pub avec ses volontaires d'Emmaüs au sourire en or massif qu'un photographe a suivi et honore d'une exposition avant d'œuvre. La Croix me donne une autre piste. Après une fin de semaine où on s'est disputé autour du Black Friday, on me dit une autre coutume américaine, le Giving Tuesday, le mardi du thon, c'est demain. N'hésitez pas Damien.
Claude Askolovitch, merci pour la revue de presse.